L'appel de la forêt, second épisode. Un lundi d'avril 2022 dans le sud du Tarn, non loin de Castres, dans le Sidobre, nous continuons notre balade auprès de Nicolas Maraval de l'association Envolvert. Envolvert agit pour la préservation de la forêt et de la biodiversité en Amérique latine, mais aussi, on va l'entendre, en France.
Alors moi je m'appelle Nicolas Maraval, je travaille pour l'association Envolvert. Je suis aussi arboriculteur sur la commune de Cambounès. Et je suis engagé, donc j'ai lancé le projet Sève pour Envolvert, qui a commencé fin 2021. Voilà, on a deux projets en France, le projet Auprès de mes arbres, qui est un projet d'agroforesterie où on accompagne des agriculteurs, et le projet Sève où on travaille sur la question des forêts au sens large.
Je reprends donc autour de l'association, donc il y a l'objet principal et puis des projets alors, ponctuels mais à long terme. Est-ce qu'on peut les décliner un petit peu?
La plupart des projets de l'association sont en Amérique latine, Pérou, Colombie. On a aussi des projets qui sont, pas localisés sur un territoire. Il y en a un qui est l'empreinte forêt. En fait, Envolvert a développé un outil qui s'appelle l'empreinte forêt qui permet de mesurer l'impact de sa consommation sur la déforestation. Et il y a toute une partie qui est du plaidoyer, sur laquelle il y a des ressources d'Envolvert qui travaillent principalement là depuis 2 ans dessus. On est entre autres en procès avec le groupe Casino sur son approvisionnement en bœuf dans la zone Brésil et Colombie. Et après, il y a les projets de terrain en France. Donc les projets de terrain en France, il y en a deux. Il y a Auprès de mes arbres, donc, qui travaille sur les espaces agricoles avec l'agroforesterie, et le projet Sève qui travaille sur les espaces forestiers, donc sur comment on s'occupe des forêts et de ces espaces-là. L'idée sur du plus long terme, en fait, c'est d'avoir une proposition qui a une cohérence territoriale. C'est-à-dire, en fait, pas de faire un projet ici et là, mais justement sur un même territoire, avec des projets qui sont complémentaires et qui sont dans la durée, de proposer une vision de comment justement gérer ces espaces agricoles, ces espaces forestiers et leur interface. Donc voilà, ça c'est un peu la vision qu'on met en place petit à petit au niveau territorial.
Comment les gens peuvent s'y insérer dans ces projets?
Alors pour le projet Auprès de mes arbres, c'est relativement simple, c'est principalement des agriculteurs qu'on accompagne. Donc ça c'est vraiment sur l'accompagnement principal du projet. Après il y a une partie d'activité de sensibilisation où on va organiser des événements pour des scolaires ou des choses comme ça, ou des discussions autour de l'agroforesterie. D'ailleurs on est en train de travailler sur la création d'un jeu comme support pédagogique, un jeu justement où on a sa ferme en agroforesterie et on développe tout ça. Donc ça c'est chouette, on espère que ce sera prêt pour cet été. Avec le projet Sève, on travaille auprès de différents publics, comme je le disais. D'une part, on va dire c'est vraiment de l'amont jusqu'à l'aval de la filière. En amont, c'est de travailler avec les propriétaires, donc ceux qui ont les forêts, parce que c'est ce qui impacte concrètement le plus sur les paysages et sur les forêts en elles-mêmes. Donc là, il y a un accompagnement de formation, de mise en réseau et de diagnostic, c'est-à-dire qu'on les aide, en fait, on leur met le pied à l'étrier pour qu'ils commencent à se poser des questions et à se former. Il y a un accompagnement qui se fait au niveau des citoyens et des scolaires, donc là aussi de la sensibilisation sur l'écosystème forestier. Donc il y a les citoyens qui sont donc à la fois par le côté sensibilisation et à la fois par le groupement forestier citoyen, donc finalement pour que des citoyens deviennent propriétaires. Et ensuite il y a tout ce qui est entre deux.
Ça peut être grand chose, voilà, ça peut être un apport financier.
Voilà, ça peut être un apport financier, mais l'idée c'est que c'est comme toujours, si tu te retrouves copropriétaire d'une forêt, bah du coup tu t'y intéresses parce que tu t'y balades et tu as envie de comprendre pourquoi cet arbre est comme ça, pourquoi là ça dépérit, comment est-ce qu'on peut faire pour exploiter le bois, ça se vend comment, enfin tout. C'est des questions qui deviennent très concrètes et qui du coup, pour moi je suis convaincu que c'est comme ça qu'on apprend, c'est un peu on se jette dans l'action et on apprend sur le tas. Et après il y a tout ce qui est entre deux. C'est-à-dire en fait entre le bois dans la forêt et le consommateur final, donc c'est toute la filière bois. Qui commence par ce qu'on appelle les ETF, donc les entrepreneurs de travaux forestiers ou les bûcherons, Donc ceux de qui on attend un travail de qualité pour sortir, couper, sortir le bois de la forêt sans l'abîmer. Ensuite vient le travail de la première transformation, qui est celui du sciage. Donc là, on a des scieurs, on soutient voilà, maximum les scieries artisanales qui savent valoriser des bois différents, des essences différentes, des gros bois. Il y a ensuite le maillon de la transformation secondaire, qui accessoirement est celui où il y a le plus de valeur ajoutée, donc il y a aussi intérêt à se faire le plus possible sur les territoires, qui serait à la fois la menuiserie, la charpente et toutes les transformations pour faire des meubles, pour faire du parquet, pour faire des escaliers, pour faire toutes ces choses-là. Et ça manque un petit peu sur les territoires. Donc il y a pas mal de bois, on va dire, brut, non ou très peu transformé, qui part et qui est transformé ailleurs. Et c'est vraiment là où il y a de la valeur ajoutée. Donc même d'un point de vue économique et emploi sur les territoires, on a tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'artisans qui travaillent sur cette transformation du bois. Et donc ça, c'est plus compliqué en fait. Nous, on peut accompagner ça en mettant en lien pour l'instant la partie du projet qui est focalisée sur la filière. C'est vraiment de mettre en lien des constructeurs, donc des particuliers qui ont envie de construire des maisons, enfin, des particuliers, des professionnels en bois et des professionnels qui sont à même justement de faire tout ce travail-là. Donc l'idéal, ce serait, si par exemple toi tu veux construire ta maison en bois, tu nous contactes. Et nous, on te dit, on connaît des propriétaires qui ont des forêts qui sont gérées à couvert continu. On va avec eux, on va voir les arbres, ils vont faire une éclaircie bientôt. Du coup, tu as besoin de combien de mètres cubes? Tac, tac, tac. On y va avec le scieur et avec le charpentier. On regarde les arbres, on dit, tiens, on va prendre ça. Là, ce sera ça pour ton escalier, ça sera pour machin. La coupe de bois se passe. Le bois est sorti, le bois est scié. Et c'est pris en charge ensuite par le charpentier qui va construire ta maison. Donc l'idée, ce serait vraiment de faire cette mise en lien. Et nous, on ferait ce travail de simplifier en fait pour l'acheteur final, de ne pas avoir à courir après tout le monde, mais en fait de mettre en lien tous ces différents acteurs, l'architecte aussi. Qui est sous une certaine forme de couvert continu, en tout cas qui pourrait s'amorcer dans ce sens-là. Là, on a visiblement, il y a des restes de plantations de pins qu'on voit. Il y a des châtaigniers un peu crevards, là, un peu vieux. Donc ça, on va dire, c'est les vieux. Et en dessous de ça, on a d'autres générations qui s'amorcent. On a des sapins, en fait, qui ont régénéré, là, on va dire, qui sont déjà dans la catégorie adolescents plus, voire même jeunes adultes. Donc ils sont en train de sortir, on a ici des sapins un peu plus enfants. Et on a là tout un tapis visiblement de chênes, de châtaigniers probablement, voilà, des châtaigniers, avec quelques hêtres, qui sont vraiment encore la prochaine génération. Donc en fait, quand on gère des forêts comme ça, on gère toutes les strates en même temps. Donc du point de vue du forestier, enfin pour moi je trouve ça passionnant en fait. Je trouve que d'autres sylvicultures sont un peu ennuyeuses et que là justement tu travailles avec quelque chose qui est multiforme, qui est multistrate, et du coup il faut réfléchir, est-ce que lui je le garde, est-ce que lui je le coupe, est-ce que c'est le moment, comment est-ce que je vais prélever du bois pour faire rentrer un petit peu plus de lumière, parce que là il y en a besoin. Donc voilà, c'est chaque endroit, chaque petite poche que tu regardes, c'est unique, et ça va demander du coup un jugement. Voilà, est-ce que là je fais quelque chose? Parce qu'en fait, s'il y a ce qu'on appelle une surcapitalisation, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir trop de bois sur une zone, le couvert en fait se ferme. Donc il y a moins de lumière qui pénètre et la régénération n'arrive plus à sortir et à se développer. Et inversement, si on prélève trop de bois, si on décapitalise trop, il y a trop de lumière qui va rentrer, on va perdre de la production puisqu'en fait il y aura moins d'arbres qui vont capter. Et en plus, le risque c'est qu'on ait au sol en fait beaucoup de plantes un petit peu qui peuvent être parfois problématiques, comme le sureau, comme la ronce, qui vont envahir et qui vont couvrir les jeunes arbres et qui vont rendre problématique la régénération. Donc voilà, c'est un peu ce jeu d'équilibre. On joue avec la lumière, on joue avec les différentes essences. Sachant que les sapins sont une essence qui résiste beaucoup mieux à l'ombre, le châtaignier moins. Donc en fait, tout ça, il faut savoir un peu le caractère de chaque arbre et ses sensibilités. Et voilà, accompagner pour qu'ils vivent et qu'ils dansent un peu tous ensemble.
Du coup, la replantation, c'est un dernier recours. C'est-à-dire que...
Voilà, en fait, traditionnellement, même, exactement, de la bouche des forestiers, en fait, ce qu'on appelle la régénération artificielle, c'est un peu un aveu d'échec de dire en fait ça n'a pas marché, du coup pour ne pas perdre et pour ne pas sortir du milieu forestier, on va quand même replanter, mais voilà, c'est parce qu'on a raté avant d'enclencher une régénération.
Parce que c'était, bah hier j'étais dans la montagne noire, il y a des bonnes parties qui sont gérées comme ça, il y a le Douglas, un petit peu monoculture et tout ça, et puis on voit des tailles rases, et puis de la replantation derrière,
ouais.
Bien alignée,
ouais.
Parce que j'imagine que la loi oblige à ça. Mais
que ce soit aligné, non, c'est juste non, plus facile pour les machines.
Voilà. Ouais. Mais je veux dire, oblige à replanter.
Alors, la loi n'oblige pas à replanter.
Non.
En fait, s'il y a une coupe rase sur une surface qui est assez conséquente, il y a ce qu'on appelle l'obligation de reboisement. C'est-à-dire, il faut un retour à l'état boisé sous 5 ans. Si c'est une coupe de feuillus, par exemple un taillis de châtaignier, les repousses, quand on coupe une souche, en fait, ça va repartir de la souche. Et donc ces repousses-là vont suffire à rétablir un état boisé. Donc c'est-à-dire très souvent quand il y a des couperas sur feuillus, il n'y a pas de replantation. On laisse juste repartir. Après, c'est la question de la qualité qui se pose. Parce que des arbres qui repousseront sur souche sur lesquels tu ne fais aucun travaux, tu n'auras pas une forêt de qualité si tu ne fais rien. Et du coup, au bout de 30-40 ans, tu vas te retrouver avec un taillis un peu moche, entre guillemets, où finalement ton option sera juste souvent de refaire une couperas. Ce qui est le mode du taillis, en fait, hein, ce qui était pratiqué traditionnellement. Pour avoir du bois de chauffage et du bois comme ça par des paysans, c'était le...
Ça, c'est pas viable sur la durée, j'imagine, pour le sol. Ne serait-ce que pour le sol.
Ça a des impacts. En fait, la question, c'est de se savoir pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça à l'époque et pourquoi est-ce qu'on fait les choses maintenant. Les problématiques au début du 22e siècle sont pas du tout les mêmes que celles au début du 21e siècle, pardon. Sont pas les mêmes qu'au début du 20e siècle. Donc, on peut pas que penser les forêts par rapport à comment elles étaient avant. Par exemple, les questions climatiques sont devenues un enjeu majeur. Avant, elle n'existait même pas dans les esprits au début du XXe siècle, donc il faut qu'on repense en fait notre grille de lecture, justement parce que les forêts ne sont pas que du bois. Est-ce que le bois de chauffage revient beaucoup à la mode et ça peut être aussi un péril pour les forêts. Donc voilà, il faut tout reposer à plat et réfléchir à quelle forêt on veut en fait pour l'avenir. Parce que comme c'est du très long terme, en fait, il faut qu'on se pose les questions maintenant et après il faut qu'on guide ça avec une constance pendant des décennies et des décennies. On ne peut pas changer d'avis tous les quelques années. Ça impacte trop. Voilà, c'est quelque chose qui se gère sur le long terme.
Vous écoutez une entrevue en balade avec Nicolas Maraval de l'association Envolver. Une balade enregistrée en avril 2022 en forêt dans le Cidobre.
Alors, si on revient à cette obligation de reboisement, du coup, si c'est du résineux, le résineux, lui, ne repart pas de souche, donc il faut replanter. Alors déjà, il faut savoir en fait que si tu ne replantes pas sur du résineux, il y a très peu de contrôle, voire pas de contrôle, donc en fait, ce ne serait que sur dénonciation. Donc en fait, il y a quand même des coupes qui ne sont pas replantées et qui sont laissées comme ça et qui partent un peu en friche.
Ça serait qui, la police des forêts, qui pourrait voir, qui regarde ça, qui surveille ça?
C'est le CRPF qui est chargé de ça. En tout cas, de dire de gens du CRPF, c'est que ça ne marche que s'il y a quelqu'un qui dénonce. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que très souvent, en tout cas sur toutes les propriétés qui sont gérées, la replantation est intégrée, en fait. On n'abandonne pas assez souvent sur des petits propriétaires ou des petites parcelles que c'est pas replanté, mais dans les grandes propriétés forestières qui représentent quand même une bonne partie de la production, c'est prévu. En fait, il y a des plans de gestion et c'est prévu de replanter. Évidemment, on ne laisse pas des forêts sans replantation. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est le modèle pertinent. En fait, il y a pour moi un problème, c'est que ce qui se met dans les esprits, c'est que planter est devenu un geste positif et planter est devenu presque essentiel à la forêt. C'est-à-dire que si on aime les forêts, il faut aimer planter.
Avec la compensation carbone et tout ça, les choses comme ça.
Voilà, par exemple, ça, c'est des choses qui sont subventionnées à condition de, principalement, il y a quelques exceptions, mais principalement sur des actes de plantation. Nous, justement, le modèle qu'on veut mettre en avant, donc à la fois dans Sèvres, c'est celui de la régénération naturelle, même auprès de mes arbres. Maintenant, de plus en plus, au lieu de planter des arbres dans les haies, par exemple, on essaie de favoriser la régénération naturelle dans les haies, ou dans des espaces qu'on veut reboiser. parce qu'en fait ça a de nombreux avantages. Il y a déjà une diversité génétique qui est beaucoup plus élevée, il y a un enracinement qui est meilleur. Si la régénération naturelle se fait, en fait, tout le processus qui y a mené, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de travail du sol, donc tout ce qu'on disait avant sur le tassement et tout ça. En général, quand il y a des plantations, ce qu'on appelle en plein, c'est-à-dire sur toute la surface, il y a très souvent préparation par des machines qui vont dégager l'espace et gratter le sol en surface pour faire quelque chose de propre pour que les planteurs puissent aller plus vite. Et ça, en fait, concrètement, on arrache la couche vivante et fertile de la surface du sol, et c'est des machines évidemment qui pèsent des tonnes et donc qui vont tasser tout ça. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on voudrait éviter dans le processus de régénération naturelle. Et dans une optique de climat qui va évoluer de manière assez rapide, nous on fait plutôt le pari de la diversité génétique et de la qualité de l'enracinement pour avoir des arbres en fait qui résisteront. Et ensuite à faire confiance à la capacité de résilience des plantes. Enfin, les plantes ont cette différence vis-à-vis de nous, c'est qu'elles ne peuvent pas s'enfuir quand les conditions ne sont pas bonnes pour elles, elles sont enracinées quelque part. Et en fait, elles ont développé d'autres mécanismes, et entre autres, elles ont une adaptabilité génétique qui est bien supérieure à celle des animaux.
Notamment parce que pour certaines, elles sont là depuis bien plus longtemps aussi.
Voilà. Donc à la fois dans un individu, il y a une capacité d'adaptation, et ensuite dans une population, il y a une capacité d'adaptation. Donc si on a des forêts pas perturbées, avec de nombreuses espèces différentes, avec de la reproduction sexuée, donc qui se croisent, beaucoup de diversité génétique, pour nous, c'est la meilleure garantie qu'il y ait une résilience en fait, vis-à-vis d'un climat qui évolue. Parce que quand on parie, ce qui est le cas maintenant, sur le fait de trouver des essences qui seraient un peu la panacée et qui résisteraient au changement climatique, donc on va piocher dans des zones autour de la Méditerranée ou en Afrique du Nord, des zones, des espèces qui sont plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse. En fait, c'est qu'on part de l'hypothèse que le changement climatique sera de la chaleur et de la sécheresse. On sait qu'il y en aura, mais ça va être aussi une variation du rythme du régime des vents, ça va être une variation du régime de l'eau, ça va être aussi des gelées tardives qui pourraient être plus fréquentes. En fait, il y a plein de choses différentes. C'est pas on pense réchauffement, mais il n'y a pas que le réchauffement, il va y avoir un dérèglement. Enfin, je trouve que le dérèglement est plus juste dans cette idée où il nous dit en fait on ne sait pas trop ce qui va se passer, il y a des tendances, mais du coup je ne sais pas s'il y a certaines essences qui sont la panacée pour s'adapter à plein de changements différents. Donc voilà, nous on est plutôt dans la tendance de faire le pari de l'écosystème. Parce qu'il y a aussi ce fait que des plantations ont un écosystème beaucoup moins riche. Parce qu'en fait, il y a tout un réseau de champignons, de racines, de plantes de sous-étage, d'insectes, d'oiseaux qui participent en fait à l'équilibre de l'écosystème. Et tout ça est beaucoup plus faible, tous ces liens sont beaucoup plus faibles dans des plantations. Donc c'est là aussi c'est le pari de l'écosystème en fait. Après ça n'empêche pas que des plantations il y aura de toute façon à en faire. En particulier s'il y a des problèmes sanitaires majeurs sur certaines essences ou des choses comme ça. Donc des replantations il y en aura. Mais l'idée c'est que d'abord le premier réflexe selon nous devrait être d'essayer la régénération naturelle. Quitte à faire des plantations d'enrichissement, donc des petites cellules où on enrichit avec différentes essences.
Et tu parlais de problèmes sanitaires justement, c'est quoi les gros dangers qui peuvent, au niveau de maladies, qui peuvent emporter des forêts entières? Il y a des choses qui sont à redouter dans les prochaines années, au-delà du changement climatique ou...
Là, en ce moment, ce qui est le plus connu, c'est le cas de l'épicéa. Dans le Grand Est, et ici aussi, il y a des peuplements d'épicéa, qui est un exemple intéressant parce qu'en fait, il a été planté dans les années après la Deuxième Guerre, comme une essence pour produire en quantité du bois, entre autres pour la pâte à papier. C'était une essence qui n'est pas adaptée. L'épicéa, c'est plutôt une essence assez montagneuse ou de Scandinavie, enfin en tout cas de zones plus froides qu'ici, qui ont commencé à avoir des dépérissements. Donc en fait, souvent on montre du doigt, mais c'est toujours quelque chose de multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a des stress, le fait qu'il ne soit pas adapté à l'endroit où il est, donc il a des stress hydriques, qui fait venir des insectes qui du coup l'attaquent, puisque dans la nature, quand il y a un organisme qui affaiblit, il vient être recyclé pour que l'ensemble continue. Donc voilà, tout ça s'est passé de manière, on va dire, assez naturelle finalement. Maintenant, il y a des grandes zones de peuplement, de monoculture d'épicéa qui dépérissent, parce que voilà, il y a des étés chauds et que du coup, il y a ces différents types d'insectes, le scolite, par exemple, qui attaquent ces arbres. Et maintenant, on est dans la logique où, par exemple, c'est le Douglas qui est devenu la star des arbres de plantation. et une très grande partie des arbres qui sont replantés sont du Douglas. Et donc pour l'instant le Douglas n'a pas de maladie majeure connue, même s'il y en a quelques-unes un peu, mais pour l'instant c'est pas encore un problème à large échelle. Mais en fait on s'est juste répété le même modèle en se disant peut-être que dans 20-30 ans sur des milliers d'hectares de plantations de Douglas, on se rendra compte qu'il va y avoir pareil des épis secs ou tel insecte ou tel champignon qui va arriver, on va se retrouver devant le même problème. Donc c'est pour ça aussi que le type de forêt que nous on encourage, c'est des forêts à couvert continu mélangé, c'est-à-dire où il y a un mélange d'essences dans le peuplement. Donc ce qui fait qu'on ne met pas tous ces yeux dans le même panier et qu'il y a, ben voilà, il y a encore une fois beaucoup plus de résilience de l'écosystème.
Vous écoutez une entrevue en balade avec Nicolas Maraval de l'association Envolver, une balade enregistrée en avril 2022 en forêt dans le Cidobre.
Et donc là on est entouré effectivement de végétal beaucoup, sûrement animal qu'on ne voit pas forcément aussi, mais beaucoup. Et le minéral aussi, la roche, l'eau, tout ça, c'est quoi son rôle ou son non-rôle dans une forêt ou dans, en tout cas dans celle-là?
Alors le, on va dire la roche mère et le, oui, la présence d'eau, en fait, c'est un peu le terrain de jeu dans lequel la forêt va se développer. En fait, il y a des interactions en permanence. Avec ça, en fait, on considère que la roche n'est pas vivante, mais en fait, il y a des interactions en permanence. La roche mère, c'est ce qui contient les minéraux dont les végétaux se nourrissent pour partie. Et donc, les végétaux créent des conditions dans le sol qui vont attaquer et dissoudre en surface les cristaux de la roche avec l'aide des microbes pour justement dissoudre des éléments nutritifs dont ils ont besoin. Le type de roche mère va déterminer aussi la profondeur des sols et va déterminer le type de forêt qu'on va avoir dessus. Par exemple, ici, on est sur des granites. Les granites vont mener à des sols plutôt sableux et des sols avec une tendance acide. Et donc ça va amener plutôt certaines essences. C'est pour ça que le châtaignier est présent ici, qui est une essence qui préfère, qui s'adapte bien à l'acidité. Donc voilà, ça va déterminer qu'on va avoir ce type de végétation-là plutôt. Après, au niveau de l'eau, les arbres sont aussi... les arbres ont des interactions assez complexes avec l'eau, en fait. C'est des gros buveurs d'eau. Un arbre peut boire 500 litres et plus par jour en plein été. Donc ils ont une consommation élevée d'eau. Après, il y a un savoir traditionnel ici, enfin en Afrique aussi, mais que les forêts amènent la pluie quelque part. Et en fait, ça a été scientifiquement étudié. En fait, il y a plusieurs mécanismes qui entraînent à ça. D'une part, par leur évaporation, les arbres libèrent, donc si on imagine une journée chaude, les arbres ont libéré d'énormes quantités de vapeur d'eau au-dessus de la forêt pendant la journée. La surface de la forêt, en fait, avec toutes les branches, fait que c'est irrégulier, en fait, si on le voit du ciel. Donc quand il y a une circulation d'air, ça fait des turbulences et ça provoque l'élévation, en fait, de cette vapeur d'eau qui va se refroidir en montant, donc se recondenser. Et en plus, les arbres émettent des substances qui, en se décomposant, font ce qu'on appelle des noyaux de condensation. Et la vapeur d'eau va s'agréger autour de ces noyaux et du coup former des gouttes qui vont retomber. Donc en fait, la forêt génère des pluies qui vont être très courtes, qui vont juste se former au-dessus et repleuvoir sans faire un cycle long, on va dire, en repassant par l'océan. Ce qui fait que la pluviométrie est plus élevée sur les forêts qui sont dans une certaine surface. Donc les forêts sont vraiment un moyen d'appeler la pluie quelque part.
En tout cas, de garder l'eau pas loin, quoi.
Tout à fait, ouais. Et en plus, le fait que sous une forêt, il y a ce qu'on appelle l'ambiance forestière, c'est-à-dire un certain ombrage et une certaine humidité de l'air, encore une fois, parce que l'évaporation refroidit et l'ombrage fait qu'il y a une certaine fraîcheur qui reste. Et donc l'eau qui tombe sous les arbres est beaucoup plus, s'évapore beaucoup moins vite, parce qu'elle est à l'abri du vent et du soleil. Et c'est sous les forêts, en fait, justement, que peuvent se former les sources et les cours d'eau, en fait, qui vont ensuite alimenter toutes nos autres activités, irriguer notre agriculture, etc. Donc ça aussi, ça fait partie des services écosystémiques qui sont souvent sous-évalués, en fait, par rapport à ce qu'ils nous apportent.
Et là, on disait, bon, alors on parle, du coup, on n'observe pas forcément, en tout cas, on ne lève pas souvent la tête. Tu parlais justement là d'une des limites de la forêt, c'est le... C'est quoi le nom d'ailleurs, le nom, il y a un joli nom, non, pour dire la limite haute
de la canopée.
La canopée. J'imagine que il se passe des choses spécifiques un peu sur les sur ces limites, comme les limites entre un champ et une forêt qui débute sont peut-être ni une forêt ni un champ, quoi. Des choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi une limite de forêt, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle finit une forêt?
Ouais. Alors en fait une forêt là aussi c'est on est en cette limite entre la question de l'arbre et de la forêt. On peut voir les individus arbres, mais voilà, c'est cette expression. Je ne sais pas exactement d'ailleurs ce qu'elle veut dire dans le fond, mais de l'arbre qui cache la forêt. C'est qu'un élément peut-être cache le système qui est derrière. Parce que la forêt en tant que telle peut être considérée comme un individu. Et dans ce cas-là, ses limites, les lisières par exemple, et la canopée sont une sorte de membrane ou de peau. Et ce qui se passe à l'extérieur, c'est différent de ce qui se passe à l'intérieur. Si on regarde à l'intérieur d'une forêt qui n'est pas perturbée, il va y avoir plein de paramètres qui sont différents, comme à l'intérieur de notre corps, c'est pas la même chose qu'à l'extérieur de notre corps. Il va y avoir cette ambiance forestière, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, l'ombrage va être plus important, le niveau d'humidité va être plus élevé, le vent va être ralenti. Tout ça va contribuer aussi au fait que quand il fera chaud à l'extérieur, il fera moins chaud dedans, et quand il fera froid à l'extérieur, il fera moins froid dedans. Donc en fait, tout ça, ça crée une ambiance qui est plus humide, moins de vent, température plus stable. Et en général, c'est des caractéristiques qui sont propices au développement de la vie en général, et des plantes, de tout ça. Donc en fait, comme nous, on crée dans notre corps des conditions qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un certain équilibre de paramètres, de température, d'humidité, de tout ça, qui sont favorables, la forêt crée ça, en fait, comme un super organisme, en fait.
Mais est-ce qu'il y a des interactions quand même, dans les, justement, aux frontières? Est-ce que c'est les frontières, justement? Est-ce que c'est pour eux ou c'est...
C'est pour eux dans le sens où il y a plein d'éléments qui vont être mobiles, tout ce qui sont les animaux par exemple, qui vont amener des semences, les oiseaux qui vont amener des semences et qui vont en ramener. Et il va y avoir des échanges de matière et d'énergie, donc par les sols. Il va y en avoir aussi qui vont passer par les cours d'eau, qui vont du coup circuler de l'un à l'autre. Donc tout ça évidemment, c'est quand on pense à un écosystème, à un individu, c'est toujours dans une hiérarchie de différents systèmes qui sont tous connectés les uns à l'autre. En fait, des systèmes fermés n'existent pas. Et si on regarde, en fait, les plantes donnent des informations sur ce qui se passe. Là, par exemple, on a des bouleaux. Et on voit des arbres assez petits, et quelques pins. Donc ça, c'est typiquement des arbres qui ont un système racinaire qui est... C'est des arbres pionniers qui grandissent rapidement, qui ont un système racinaire très peu exigeant. Donc là, c'est très probable qu'il y ait une roche mère qui soit très peu profonde, en fait, qui ait très peu de sol et qui rende plus difficile le développement d'arbres plus grands. Et du coup, c'est eux qui s'installent. Ils s'installent dans des zones où il y a des chaos de rochers ou des choses comme ça, où il n'y a pas beaucoup de sol. C'est ce qui a donné le nom à la commune du Bess, d'ailleurs, le bouleau, l'Oubès, c'est le nom de l'arbre, qui pousse aussi sur des sols acides et sableux. Et donc ça, en voyant ce qui pousse au-dessus, ça donne des informations sur ce qui se passe en dessous.
Et du coup, comment tu définirais là? Tu disais, en gros, ils ont pris la place que d'autres n'ont pas pris. Parce que la
en fait,
nature...
ils occupent des niches parce que les conditions, en fait, le terrain de jeu est donné. Ici, on va dire, on a les règles du jeu que sont le climat, c'est-à-dire une certaine quantité de pluie, une certaine température, la présence de saison. Voilà, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de baobab ici et qu'on n'a pas non plus d'essence tropicale. Et ensuite, le terrain de jeu, ça va être la profondeur du sol, la roche mère. L'ensemble de ça, c'est ce qu'on appelle une station. Une station forestière, en fait, c'est... Ici, on est sur un terrain un certain plat avec une certaine orientation, on est à une certaine altitude dans le massif du Cidobre avec tel climat. Donc ça va donner en fait les règles du jeu de savoir qui peut s'installer là.
Est-ce que c'est... si on parle d'un côté d'entraide et de sélection naturelle, ça marche aussi pour les végétaux ou pour une forêt, c'est comme on l'entend de Darwin, etc. Les espèces, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Comment tu l'analyses tout ça?
En fait, c'est des mécanismes qui fonctionnent en même temps, en fait, le fait d'une compétition et le fait d'une coopération. Et du coup, ça se joue et se déjoue en permanence. Par exemple, avec les mycorhizes dans le sol, il y a énormément de champignons différents, il y a énormément de plantes différentes qui ont les possibilités de se connecter. Donc la plante va se connecter avec plein de champignons différents. Et ceux qui vont lui apporter quelque chose, elle va les nourrir en échange. Ceux qui vont lui apporter moins, elle va moins les nourrir en échange. Donc en fait, c'est des contrats qui se nouent et qui se dénouent. Enfin, c'est tout ça, c'est une dynamique. Voilà, c'est une dynamique complexe et multiple en fait. C'est pas. Et il y a des formes de prédation, par exemple du chevreuil sur de la végétation, mais en même temps le chevreuil profite du couvert forestier. Donc tout ça, ça, c'est des interactions qui sont complexes et qui, si on parle que de coopération ou que de compétition, en fait, c'est qu'on essaie mentalement de simplifier quelque chose qui nous dépasse en termes de complexité. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis toujours, la forêt a eu un effet sur l'homme qui dépasse. On peut en rester juste à l'aspect scientifique, mais il y a quelque chose de profondément émotionnel et de profondément personnel dans le rapport à la forêt. Et comme je le disais au tout début, en fait, moi, c'est un des contacts que j'ai avec la forêt. La forêt peut nous emmener au-delà, on va dire, de notre fonctionnement habituel, où on est dans le mental rationnel, on est dans le temps qui passe, enfin voilà, on peut se perdre en forêt, on va dire se perdre agréablement, perdre la notion du temps. On sent qu'on change complètement d'état d'esprit, qu'on est en lien avec autre chose en fait, et que notre perception de notre vie, de nos problèmes, de plein de choses devient très très différente. Après, si on veut appeler ça avoir été en contact avec les esprits de la forêt, pourquoi pas? De toute façon, c'est un mot qu'on met a posteriori sur une expérience. Donc pour moi, ce qui compte, c'est l'expérience personnelle qui est vécue en forêt. Et ensuite, voilà, s'il y en a qui veulent y voir des esprits, ils y voient des esprits. Si d'autres veulent juste ressentir un moment spécial qu'ils ont vécu, voilà, chacun met les mots qu'il veut dessus. Pour moi, en fait, l'approche scientifique, et c'est un peu la caractéristique des vrais scientifiques, c'est des gens qui se posent toujours des questions et qui gardent une certaine capacité d'émerveillement. En fait, et que, enfin, moi, quand j'apprends des nouvelles choses justement sur cette complexité, à chaque fois, il y a un côté de « mais c'est quand même incroyable que toutes ces choses-là, et puis il y a un nouveau pan que je ne connaissais pas, et il y en a sûrement plein d'autres. » Et c'est, la connaissance intellectuelle me montre que ça me dépasse et que ça va, enfin voilà, que ça... Du coup, il y a une forme d'admiration, de respect, de considérer que c'est quelque chose qui est tellement beau et complexe que je sens que j'aurais pas pu le mettre au point moi-même, en fait, ça me dépasse. Après, on peut aussi se cacher derrière ce côté purement rationnel et cartésien pour justement se couper de sa sensibilité. Moi, je pense que c'est pas la peine, c'est deux outils différents, c'est deux approches différentes qui sont complémentaires, en fait. Et même pour aller plus loin que ça, ce qui est le moteur le plus efficace pour moi de l'humain, c'est pas sa tête. Pour moi, la tête, c'est l'exécutant, en fait, qui est efficace. Mais le cœur est beaucoup plus efficace pour mobiliser, en fait, pour nous mettre en mouvement. Et si on ne s'ouvre pas à cette sensibilité vis-à-vis de la forêt, mais de tous les milieux naturels, en fait, on se coupe de ce qui nous donne notre énergie, de ce qui nous donne notre joie de vivre, notre envie d'agir, de changer les choses. Et donc, pour moi, c'est important que les gens viennent en forêt et pas forcément... Enfin, encore une fois, l'approche scientifique peut amener quelque chose, mais... C'est pas nécessaire que les gens passent du temps en forêt, que les enfants passent du temps en forêt et créent leur propre lien personnel, en fait. Créent leurs histoires, leurs aventures, se perdent en forêt, jouent en forêt, et que c'est ça qui va créer leur envie, je pense, de la protéger, plus que des discours scientifiques qui seraient faits dans une classe en expliquant ci ou ça sur la biologie. Donc je pense que ce côté n'est pas à sous-évaluer dans l'approche qu'on a. C'est pour ça qu'il y a toute une partie dans le projet qui est sur la sensibilisation des citoyens et des scolaires, et de juste passer du bon temps en forêt, en fait, d'avoir plaisir à être dans ce milieu-là et de se nourrir du chant des oiseaux, de l'ambiance particulière qu'on y trouve.
Merci à Nicolas Maraval de l'association Envol Vert pour cette balade en forêt du Cidobre, enregistrée en avril 2022. C'était la seconde et dernière partie de notre échange. Retrouvez l'association Envol Vert et ses projets sur le site envol-vert.org. Merci pour la musique à Two Pence, Bob Dylan, The Cinematic Orchestra et enfin Arthur Black reprenant Fake Plastic Tree de Radiohead. Adisiat. All the time.